Thomas Hardy. Le maire de Casterbridge. Chapitre 15. Nul n'avait tout d'abord prêté grande attention dans Casterbridge à la jeune beauté de Miss Newson, et le regard de Donald Farfrae s'attardait seul sur la soi-disant belle-fille du maire. C'est que la vérité, Elisabeth illustrait mal la définition malicieuse du prophète Baruch, la vierge qui aime à s'en aller gaiement. Quand elle marchait dans la rue, elle paraissait plongée dans un monde de rêveries intérieures et ne se préoccupait guère des objets visibles. Elle prenait des résolutions singulières sur les fantaisies de toilette, estimant peu conforme à son passé de s'épanouir trop joyeusement du jour où elle se trouvait avoir de l'argent. Rien n'est plus insidieux pourtant que le passage de la simple fantaisie au désir et du désir au véritable besoin. Un jour de printemps, Henshaw donna à Elisabeth une boîte de gants de nuances délicates. Elle désirait les porter, pour témoigner sa gratitude à son beau-père, mais ne trouva point dans sa garde-robe de chapeau en harmonie avec leur teinte. Elle voulut, au nom du goût, s'offrir le chapeau nécessaire. Quand elle eut le chapeau qui allait avec ses gants, aucune de ses robes ne convenait au chapeau. Il était impossible de ne pas aller jusqu'au bout. Elle commanda la robe voulue, et s'aperçut qu'elle n'avait pas d'ombrelle à marier avec la robe. Qui donne un sou donne une livre. Elle acheta l'ombrelle et se trouva nantie d'une toilette complète. Tous ceux qui la virent furent charmés, et d'aucuns prétendirent que sa simplicité passée n'était que l'art qui dissimule l'art, la délicate imposture de la Rochefoucauld. Elle avait recherché, par contraste, un effet de surprise et l'avait faite à bon escient. Accusation mal fondée, qui n'en fut pas moins effective. Aussitôt que Casterbridge tint la jeune fille pour adroite, il la jugea digne aussi d'attention. « C'est la première fois de ma vie que l'on m'admire autant, » disait Elisabeth, « mais l'admiration de ces gens-là ne vaut peut-être pas la peine que l'on s'y attarde. » Cependant, Donald Farfrae l'admirait aussi, et ce fut à tout prendre une belle époque dans la vie de la jeune fille. La nature féminine ne s'était pas encore aussi vigoureusement affirmée chez elle, car elle avait été peut-être trop impersonnellement humaine jusque-là pour être nettement femme. Rentrant un jour, après un triomphe sans précédent, elle monta dans sa chambre et penchée sur son lit, le visage dans les mains, sans souci des plis de sa robe froissée. « Mon Dieu » murmura-t-elle, « est-ce possible ? Me voici en passe de devenir la beauté de la ville !» Après un moment de réflexion, son habituelle terreur de s'exagérer les apparences engendra en elle une profonde tristesse. « Il y a quelque chose de faussé dans tout cela, » rêvait-elle. « Si l'on me connaissait seulement pour la pauvre fille sans éducation que je suis, je ne sais ni l'italien ni la géographie, et je ne possède aucun des talents des jeunes filles qui sortent de pension. Comme on me mépriserait, et si l'on savait cela, mieux vaudrait vendre toutes ces fanfreluches pour m'acheter des grammaires, des dictionnaires et une histoire de toutes les philosophies. » Elle se mit à la fenêtre et vit dans la cour Henshaw et Farfrae, engagés dans une conversation où le maire apportait la cordialité fougueuse et le jeune homme la modestie enjouée qui leur était habituelle. C'était bien une amitié d'homme à homme que la leur, une amitié solide et ferme, et pourtant, la semence qui devait en ébranler les fondations prenait racine, à cette minute précise, dans une crevasse de sa base. Il était environ 6 heures, et les ouvriers quittaient un à un leur travail pour regagner leur domicile. Le dernier à partir était un jeune homme de 19 à 20 ans, aux épaules rondes et aux yeux clignotants, dont la bouche, faute sans doute d'un menton pour la soutenir, s'ouvrait toute grande à la moindre provocation. Henshaw le héla au moment où il franchissait la porte. « Abel Whittle ? Ici !» Whittle se retourna et revint en courant. « Oui, monsieur » soupira-t-il, d'un ton suppliant et la laine coupée, comme s'il avait su ce qu'il attendait. « Encore une fois, tâche d'arriver à l'heure demain matin !» Tu vois ce qu'il faut faire et tu entends ce que je dis. Je ne me laisserai pas lanterner plus longtemps. Oui, monsieur. » Abel Whittle se retira. Le maire et Farfrae sortirent derrière lui et Elisabeth ne les vit plus ce soir-là. Henshaw avait de bonnes raisons pour parler comme il venait de le faire. Le pauvre Abel, comme on l'appelait, avait l'habitude invétérée de dormir trop longtemps le matin et d'arriver en retard à l'ouvrage. Il avait la ferme volonté de se trouver parmi les premiers venus, mais si ses camarades oubliaient de tirer la ficelle qu'il s'attachait toujours aux gros orteils et laissaient à cet effet pendre par la fenêtre, sa volonté partait au vent, il n'arrivait pas à l'heure. Son travail l'appelait souvent, en second, à la bascule à foin ou au monte-charge. Il était d'autrefois désigné pour accompagner les charrettes dans la campagne et en rapporter le foin que l'on venait d'acheter. Aussi, son infirmité malheureuse était-elle cause de multiples inconvénients. Deux fois dans la semaine, il venait de faire attendre près d'une heure ses camarades, d'où la menace d'Enchard. Il restait à voir ce qui arriverait le lendemain. 6 heures sonnèrent, il n'y avait pas de Whittle. À 6h30, Enchard entra dans la cour. La charrette que Whittle devait accompagner était attelée et le charretier attendait depuis 20 minutes. Sur quoi, Enchard se mit à sacrer et à déclarer à Whittle, qui arrivait hors d'haleine, qu'il tolérait pour la dernière fois un pareil retard. Si la chose se renouvelait, c'est lui-même, par Dieu, qui irait le tirer du lit. « Il y a quelque chose de détraqué en moi, mon bon monsieur, » balbutia Abel, « surtout dans mon intérieur, où ma pauvre cervelle muette se fige le soir comme un caillou, sans me laisser le temps de dire un petit bout de prière. » Ça m'est arrivé dans ma jeunesse avant que j'aie touché mes premiers gages d'homme, et depuis ce temps-là je ne puis plus jamais jouir de mon lit, car je ne suis pas plutôt couché que je dors, et je suis debout avant d'être réveillé. Je m'en suis bien fait de la bile, mon maître, mais que voulez-vous que j'y fasse? Tenez, hier soir, je n'ai mangé qu'un petit bout de fromage avant de me mettre au lit, et... Laisse-moi tranquille, hurla Enchard. Demain les charrettes doivent partir à 4 heures, et si tu n'es pas là, prends garde, je te mortifierai la chair. Mais laissez-moi au moins vous expliquer, monsieur. Enchard lui tourna le dos. « Il m'interroge et me demande des explications, et puis là, il ne veut pas m'écouter, » gémit Abel, en s'adressant à tous les ouvriers présents dans la cour. « La peur va me faire trembler comme une feuille toute la nuit, je le sens bien. » Les charrettes avaient le lendemain une longue course à faire jusqu'à la vallée de Blackmoor, et à 4 heures, des lanternes s'agitaient dans la cour. Mais Abel restait absent. Sans laisser à un de ses camarades le temps de courir le prévenir, Enchard apparaissait à la porte du jardin. « Et Abel Whittle ?»«
Il n'est pas là, après ce que je lui ai dit ?»«
Eh bien, sacrebleu, je vais tenir ma promesse, puisqu'il faut cela pour le corriger. Je passe chez lui. » S'éloignant à grands pas, Enchard entra dans la maison d'Abel, pauvre chaumière de la rue des Champs, dont, faute d'avoir quelque chose à perdre, les habitants laissaient toujours la porte ouverte. Au chevet du lit d'Abel, le marchand de grains poussa de sa voix de basse un cri si vigoureux qu'Abel bondit et fut pris à la vue d'Enchard de convulsions spasmodiques qui ne l'aidaient en rien à passer ses vêtements.
« Hors du lit, monsieur, et au grenier tout de suite, ou vous quitterez mon service aujourd'hui même. Allons en avant, laissez votre culotte, cela vous servira de leçon. »
Le malheureux Whittle enfila une manche de veste et réussit au bas de l'escalier à fourrer les pieds dans ses souliers, tandis qu'Enchard lui plantait son chapeau sur la tête. Whittle se mit à trottiner le long de la rue des Champs, suivi à quelques pas par Enchard, très raide. À ce moment précis, Farfrae, qui était allé jusque chez le maire pour le chercher, apparaissait sur la porte de derrière. Il distingua dans le petit jour du matin une chose blanche flottante et reconnut bientôt le pan de la chemise d'Abel qui passait sous sa veste.
« Bonté du ciel, qu'est-ce que cela veut dire ?» demanda Farfrae, en suivant Whittle dans la cour, où il précédait Enchard de quelques pas. « Vous voyez, monsieur Farfrae, » bégayait Whittle avec un sourire de terreur résignée. « Il a déclaré qu'il me mortifierait la chair si je me levais pas plus tôt, et maintenant il fait comme il l'a dit. Je n'y peux rien, monsieur Farfrae, il y a de drôles de choses dans le monde. » Oui, je vais aller à Blackmoor à moitié nu comme cela, puisqu'il l'ordonne. Mais je me tuerai après. Je ne pourrai plus vivre après une honte pareille. Les femmes vont regarder par leurs fenêtres et voir ma honte tout le long du chemin. Elles se moqueront de moi et riront bien d'un homme sans culotte. Vous savez comme je suis sensible et comment il me vient des idées noires, monsieur Farfrae. Oui, je me ferai du mal. Je sens venir la chose.
Retournez chez vous et passez votre culotte pour travailler comme un homme. Vous allez attraper la mort à rester comme cela si vous ne vous dépêchez pas.
J'ai peur, il ne faut pas. Monsieur Enchard a dit.
Peu m'importe ce qu'a dit monsieur Enchard ou un autre, c'est une vraie folie de faire cela. Courez vous habiller tout de suite, Whittle.
Holà, holà, s'écria Enchard qui arrivait dans la cour. Qui est-ce qui le renvoie? Tous les regards se tournèrent vers Farfrae. C'est moi, fit l'Écossais. Je trouve que cette plaisanterie a été poussée assez loin.
Et moi je dis que non. « Monte dans la charrette, Whittle !»«
Pas tant que je suis régisseur ici, » protesta Farfrae. « Il va rentrer chez lui, ou c'est moi qui sortirai pour toujours de cette cour. »
Enchard le regardait, le visage rouge et durci. Mais il hésita un instant, et leurs yeux se rencontrèrent. Donald s'avança vers son patron, dans les yeux duquel il lisait un regret de sa violence. «
Allons, monsieur, » fit-il tranquillement, «
Un homme dans votre situation ne fait pas cela. C'est de la tyrannie, c'est indigne de vous. »
« Ce n'est pas de la tyrannie, » protesta Henchard comme un enfant boudeur. « C'était pour qu'il s'en souvienne. »
Puis, avec l'accent d'un homme douloureusement blessé. « Pourquoi m'avez-vous ainsi parlé devant les hommes, Farfrae? Vous auriez pu attendre que nous soyons seuls. »«
Ah, je sais pourquoi. Je vous ai dit le secret de ma vie, imbécile que je suis, et vous en profitez. »
« Je l'avais oublié, » répondit simplement Farfrae. Henchard baissa les yeux sans répondre et tourna le dos. Dans le courant de la journée, Donald apprit qu'Henchard avait, tout l'hiver précédent, fourni la vieille mère d'Abel de charbon et de tabac à priser. Son indignation contre le marchand de grains s'en atténua. Mais Henchard restait sombre et silencieux, et comme un de ses hommes lui demandait s'il devait ou non monter de l'avoine dans un grenier du haut, il répondit sèchement.
« Demandez à Monsieur Farfrae, c'est lui le maître ici. »
Et, moralement, le jeune homme était maître en effet, la chose n'était pas douteuse. Admiré plus que quiconque, jusque-là dans son cercle, Henchard avait perdu sa supériorité. Un jour, voulant une appréciation sur la valeur d'une meule de foin, les filles d'un fermier défunt de Durnover envoyèrent un enfant à M. Farfrae pour le prier de venir donner son avis. Le messager ne rencontra pas Farfrae, mais Henchard dans la cour. « Très bien, répondit le maire, je vais venir. » « Et M. Farfrae, s'il vous plaît ?» insista l'enfant. « Il viendra aussi ?»«
Je vais par là-bas. Pourquoi M. Farfrae ?» demanda Henchard avec un regard fixe et rêveur. « Pourquoi veut-on toujours avoir affaire à M. Farfrae ?»«
Probablement parce qu'on l'aime tant, c'est ce qu'on dit. »
« Ah, je vois, c'est ce qu'on dit, vraiment.
On l'aime parce qu'il est plus malin et qu'il en sait plus long que M. Henchard et qu'en somme, M. Henchard ne lui vient pas à la cheville, hein ?»«
Oui, c'est bien cela, monsieur, une partie de ce qu'on dit. »«
Ah, on en dit davantage ?»«
Oui, bien sûr.
Quoi donc ?
Tiens, voilà 6 pence pour t'acheter quelque chose à la foire. » »«
On dit qu'il est mieux luné. » Et qu'Henchard près de lui n'est qu'un imbécile. Et quand les ouvrières rentrent chez elles, elles déclarent « C'est un bijou cet homme-là, un gars fait aux moules, c'est le plus gentil des hommes et l'oiseau qu'on voudrait s'offrir. » Ou bien elles disent « C'est le plus fort des deux, de plusieurs points qu'elles disent, et on voudrait bien qu'il soit le maître à la place d'Henchard. »
« Toujours des bêtises, » grommela Henchard, avec un dépit contenu. « Tu peux filer maintenant, et c'est moi qui viendrai évaluer le foin. Moi, tu entends ?»
L'enfant s'éloigna, laissant Henchard murmurer entre ses dents. « On voudrait qu'il soit le maître ici.
Ah oui !»
Il partit pour Durnover et rencontra Farfrae en chemin. Ils firent route ensemble. Henchard tenait les yeux fixés sur le sol. « Cela ne va pas aujourd'hui, s'enquit Donald ?»«
Mais si, cela va très bien, » répondit Henchard.
« Vous êtes un peu triste, sûrement. Il n'y a pourtant pas de quoi être fâché. C'est de la belle marchandise que l'on a rapportée de Blackmoor. » À propos, les gens de Durnover demandent qu'on évalue leur foin. Je le sais, j'y vais. J'y vais avec vous. Comme Henchard ne répondait pas, Donald se mit à fredonner à voix basse, mais il s'arrêta tout à coup, à proximité de la maison du défunt.
Oh, je ne pensais plus que leur père est mort. Je me tais. Comment ai-je pu l'oublier?
Vous vous souciez bien des sentiments des gens, ricana Henchard.
Oh oui, surtout des miens.
Si je vous ai blessé, j'en suis bien fâché, monsieur. Répondit en s'arrêtant court l'Écossais, dont le visage exprimait à nouveau un sentiment de regret. Mais pourquoi dire ou penser même chose semblable? Le nuage qui obscurcissait le front d'Henchard se dissipa, et se tournant vers Donald, dont il regardait la poitrine plutôt que le visage. « J'ai entendu des racontars qui m'ont vexé, avoua-t-il. C'est pour cela que je vous ai parlé sèchement, en oubliant ce que vous êtes réellement. Tenez, je ne veux plus m'occuper de ce foin. » Vous ferez bien mieux la chose que moi, Farfrae, et c'est vous qu'on a demandé d'ailleurs. Il faut que je préside une réunion du conseil à 11 heures, et le moment s'approche. » Ils se séparèrent sur ce renouveau d'amitié. Donald ne voulut pas interroger le maire sur le sens de paroles qui lui restaient obscures. Henchard avait retrouvé sa tranquillité, il ne songeait plus cependant à Farfrae sans une confuse appréhension, et se repentait souvent d'avoir ouvert son cœur au jeune homme et de lui avoir confié les secrets de sa vie.